Ce matin, le message que le Seigneur a mis sur mon cœur, eh bien, je pense que ça tombe bien. Dans le sens que, dans un temps d'épreuve comme celui que nous vivons, parce que je m'inclus avec vous autres, dans un temps d'épreuve comme celui que nous vivons, eh bien, on a besoin d'être un. On a besoin d'être unis ensemble. Et c'est la raison pour qu'à faire ce matin, j'ai intitulé ce message-là « Sept vérités ». Qu'on retrouve dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, et j'aimerais vous inviter à ouvrir là, lire les versets 4 à 6. Alors, l'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, les versets 4 à 6, où Paul dit ceci, « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Si on posait la question suivante, qu'est-ce que la vérité? Il y aurait plusieurs définitions qui viendraient dans votre tête, n'est-ce pas? Je vais vous en proposer une, moi, ce matin. Caractère de ce qui est vrai. Alors, c'est pas compliqué. Caractère de ce qui est vrai. Et le Larousse dit, c'est ce qui est adéquat entre la réalité et ce que pense l'homme. Et dans les quelques versets qu'on vient de lire, vous allez voir, Paul nous présente une excellente raison pourquoi nous devrions, avec humilité, je dirais avec souffrance, nous supporter les uns les autres. Autrement dit, pour aimer les uns, aimer les autres, afin d'être capable de conserver l'unité. Et lorsqu'une épreuve arrive, surtout une épreuve comme vous passez en ce moment, Denis n'est pas là, Denis est absent, le berger n'est pas là, eh bien, des fois, on serait porté à dire, on devrait faire ça, on devrait faire ça, puis là, toutes les idées sortent, n'est-ce pas? Et c'est là que l'unité risque de s'effriter. Donc, pour être capable de conserver cette unité-là, on doit, mes amis, s'aimer les uns et les autres. Et dans les versets qu'on vient de lire, il y a une grande doctrine. C'est la doctrine de l'Église, l'ecclésiologie, la doctrine de l'Église. C'est le thème majeur, d'ailleurs, de l'Épître de Paul aux Éphésiens. Si vous connaissez un peu l'Épître, le thème majeur de cette Épître, c'est l'Église. Et pourquoi? Parce que pour Paul, c'est un principe qui est vital. C'est un principe qui est important, l'Église. Et à chaque fois, si vous allez décortiquer la racine du mot grec, de « ecclésia », vous allez retrouver qu'à chaque fois, Paul en parle avec l'idée de « membership », l'idée de solidarité. Et lorsque le berger n'est pas là, eh bien, l'ennemi, s'il est capable de disperser, va le faire. Donc, l'idée de Paul ici, lorsqu'il parle d'Église, il parle de solidarité. C'est ça l'Église. Exactement ça qu'il va nous montrer ce matin. Si je vous disais que nous sommes tous membres les uns les autres, seriez-vous d'accord avec moi? On est tous membres les uns les autres. Si on saisit bien cette idée, si on est capable de saisir cette idée, je vous garantis qu'on va comprendre ce que c'est que l'Église. On va voir où Paul veut aller avec ça. Et un des résultats, souvent, un des péchés dans nos églises, c'est que nous sommes centrés sur nous-mêmes. Nous souffrons de nombrilisme. On se regarde le nombril. Me, myself, and I. Je suis le centre. Et ça, c'est un grand péché qui règne dans nos églises. On n'est pas objectif, on est subjectif, comme nous on pense. On est biaisé dans nos pensées, on est biaisé dans nos idées. Et souvent, c'est ça qui arrive. Savez-vous ce que le péché fait? Il fait en sorte que je me place moi-même au centre. Et regardez-moi! C'est moi le nombril. Mes amis, la doctrine de l'Église nous démontre clairement, et c'est pour ça que j'ai utilisé le mot solidarité, le terme Église démontre clairement que nous sommes une partie, que nous sommes une brique, que nous sommes une portion d'Église. Ça démontre clairement ça. L'Église, ce n'est pas moi, c'est nous. Exactement l'idée de Paul, tout le long de son épître. Et le moment où vous et moi, on voit l'Église comme ceci, là, un, on est une partie, on est une brique, et chaque brique est enchâssée au bon endroit, comme l'Éternel le veut. Et du moment qu'on comprend ça, mes amis, on va être capable de saisir l'idée de l'Église sans subjectivité. On va être objectif. Paul dit dans 1 Corinthiens 12, 27, « Vous êtes le corps. Pas tu, vous, tout un groupe. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Moi, en tout cas, si on m'avait demandé de jouer du piano ce matin, vous auriez été très déçus. Notre sœur, elle joue très bien. Mais je n'aurais pas pu dire à notre sœur, « Tosse-toi, moi je joue à ta place. » Comprenez-vous? C'est pas là, c'est pas ma place. La brique que le Seigneur a placée là, c'est notre sœur, c'est pas moi. Chacun est au bon endroit. Donc, on découvre dans le texte que j'ai lu avec vous, là, tantôt, cette vérité. Et ces sept vérités sont caractérisées par un mot. L'avez-vous remarqué? En lisant le texte, il y a un mot qui revient. Seul, dites-le fort. Seul, un mot, le seul. Et dans les textes qu'on a lus, les trois personnes de la Trinité sont là. Au verset 4, vous avez le Saint-Esprit. Au verset 5, vous avez Christ. Au verset 6, vous avez Dieu le Père. C'est intéressant. Parce que Père, Fils et Saint-Esprit forment quoi? La Trinité. Et cette Trinité-là forme un seul tout. Un seul tout. Donc, pour bien comprendre le rôle que toi et moi on a joué ce matin, regardons la première vérité. Un seul corps. Vous allez dire, ben j'ai lu ça souvent, moi. Oh, je sais que j'ai lu ça souvent. Voyez-vous, Christ, il dit dans Jean 11, 52, « Afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. » Vous irez voir la parole de Dieu dans Jean 11, 52, « Afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. » C'est ça qu'il veut faire. Et ça, c'est quoi? C'est le résultat du baptême du Saint-Esprit. Voyez-vous, l'unité existe à l'intérieur de l'organisme du corps de Christ. À ne pas confondre, hein, la différence entre organisme et organisation. Est-ce qu'on la connaît? Dans un organisme ou une organisation, là, je dirais ceci. N'importe quel membre peut quitter, n'importe quel membre peut s'en aller, puis l'organisation va continuer à fonctionner. Ça ne les dérangera même pas. Vous savez, des fois, on fait l'erreur de dire ceci. Lui, là, dans cette compagnie-là, il n'est pas remplaçable. Il est irremplaçable. Hein? S'il s'en va, là, la compagnie va... Mais c'est pas vrai. C'est faux. Il n'y a personne de remplaçable. Êtes-vous d'accord avec moi? Vous dites oui, hein? Il n'y a personne de remplaçable. Moi, là, la journée que j'ai quitté mon emploi séculier, personne ne m'a remplacé. Je n'étais pas remplaçable. Savez-vous pourquoi? Parce que les gens se succèdent, mais ne se remplacent pas. Est-ce qu'on voit la différence? Les gens se succèdent. Il y a quelqu'un qui a pris ma place. Mais José, toujours rester José, je suis unique. Je vais prendre mon frère Mathieu, hein, c'est pas mon nom. Mathieu est unique. La journée qu'il va lâcher les avions, là, les contrôleurs aériens, inquiétez-vous pas, ça va continuer à fonctionner. Il n'y a personne qui va remplacer Mathieu. Pourquoi? Parce qu'il est unique. Il y a juste lui qui a son ADN. Personne d'autre a son ADN ici. Mais par contre, il y a des gens qui vont succéder. Est-ce qu'on voit la différence? Donc, une organisation, les gens peuvent s'en aller, se succèdent, puis ils ne sont pas remplaçables, c'est vrai, mais ils se succèdent. Tandis que dans un organisme, il n'y a personne qui peut s'en aller. Il n'y a aucune partie qui peut s'en aller sans atteindre les autres. Faites-vous couper un doigt. Ce doigt-là, ici, là, c'est-tu le majeur, ça? C'est l'index? C'est celui-là, là, en tout cas. Il a besoin des quatre autres pour fonctionner. OK? Et les quatre autres ont besoin de lui pour fonctionner. Je suis plus capable de prendre les choses avec aisance s'il manque un doigt. Tu es d'accord avec moi? Est-ce qu'on voit la différence? Alors, quelqu'un qui va dire à l'église, là, lui s'en va, bon débarras, on n'aura plus besoin. C'est pas vrai! Tu ne peux pas t'en aller, mon frère et ma soeur, sans affecter le corps de Christ. Un seul corps. C'est ça. Une église locale est un organisme. Pas une organisation. Et malheureusement, on fait fonctionner les églises aujourd'hui, en 2019, comme une organisation. Denis n'est pas là, là. Puis vous en souffrez. Right? Vous en souffrez. La preuve, vous êtes obligé de faire venir des gens du dehors. Tu sais, vous dites, on souffre, on manque quelqu'un. Donc, si un membre malade, si un membre abandonne, mes amis, ça va affecter tout le reste de l'Église. Et une des premières questions qu'on doit se poser, je pense, en tant qu'Église, si nous voulons être unis, on doit se poser la question suivante. Sommes-nous tous ensemble membres du corps de Christ, de cet organisme qu'on appelle l'Église à Hawkesbury? Ça, c'est la première question. Un seul corps. La deuxième question, un seul esprit. La deuxième vérité, un seul esprit. Alors, j'ai mentionné tantôt, versets 4, 5 et 6, trois personnes en une seule. Un mystère que j'ai jamais compris. Si vous l'avez compris, vous viendrez me l'expliquer. Moi, je l'ai jamais compris. J'accepte ce mystère par la foi. Parce que la parole de Dieu le dit. Mais c'est unique, hein? Moi, je dirais unique. Puis pour utiliser une expression que j'aime utiliser, c'est mirabolant, hein? Wow! Trois personnes, un. Trois personnes qui ne sont qu'une. C'est-tu possible? C'est pas possible, humainement parlant. Mireille, c'est mon épouse. Mireille et moi, nous sommes deux. Tu es d'accord avec moi? Ça fait plus de 52 ans qu'on est deux. Et dans plus de 52 ans, j'ai essayé d'être un, j'ai jamais vraiment. Mes frères, si vous êtes capable d'être un, vous autres, viendrez me voir, viendrez vous donner le truc. Mais le Père, le Fils et l'Esprit sont un. Je comprends pas. Moi, j'ai essayé maintenant en parlant d'être un avec Mireille, puis je peux pas. Mireille, c'est Mireille, puis José, c'est José. C'est de même que ça fonctionne, hein? Voyez-vous, il est difficile de faire un avec mon épouse. Pourtant, trois personnes font une, la Trinité. Voyez-vous, l'exemple des rayons, hein? J'ai fait une belle roue. L'exemple des rayons d'une roue avec le moyeu au centre, hein? L'exemple des rayons d'une roue avec le moyeu. Voyez-vous, pourquoi faire qu'il ne peut pas y avoir de paix sur la terre? Regardez là. Plus les broches sont près du moyeu, plus elles sont collées, hein? Elles sont unies. Plus elles s'éloignent du moyeu, plus elles sont larges. L'Église locale, là, si toi, en tant que frère et sœur, tu te tiens là, tu ne peux pas dire que tu fais un avec ton Église locale. Tu es trop loin du moyeu. Le moyeu, c'est Christ. Le moyeu, c'est le centre, c'est Jésus-Christ. Et plus tu vas te tenir proche du moyeu avec ta broche, plus tu vas être collé à Christ. De la glue, hein? Plus tu vas te coller à Christ. Bien, c'est l'idée ici d'un seul esprit. Est-ce que... Y a-t-il des divergences d'opinion dans vos réunions d'affaires, vous autres? Pourquoi, excusez le mot, mais qu'on s'ostine, qu'on s'argumente? Pourquoi? J'essaie de comprendre. On a tous la même parole, on a tous le même salut, la même foi. On devrait se tenir là. Mais là, on s'argumente. On laisse le monde entrer, puis oh boy, là, on s'en va là, hein? C'est mon idée, c'est moi qui ai raison, c'est pas toi qui as raison, c'est même ça marche. Est-ce qu'on a un seul esprit? Non, on est loin du moyeu. Moi, je pense qu'on est loin du moyeu, hein? Ceux qui connaissent Jésus-Christ sont ceux qui vont toujours, même dans les conflits, s'orienter vers le moyeu, vers le centre. Toujours. Alors, ma question pour toi et moi, où est-ce que tu es dans la roue? Où est-ce que tu es, hein? Est-ce que tu préfères être là? Bien, plus facile, hein? Puis chialer, critiquer, ben, on est loin. Hein? Ou dans le milieu où tu as tendance à te rapprocher. Hein? Où est-ce que tu es? Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, si tu es près du moyeu et non vers l'extérieur de la roue, ça va être tout un cadeau pour l'Église locale. Une troisième vérité, une seule espérance. Oups, j'ai pesé du mauvais bord, hein? Non. Comment enlever ça, là? Hein? Pardon? Ah, suivant. C'est ça. C'est bon. Excusez-moi. Technologie, c'est pas mon fort, hein? Peut-être que rendu... Quand vous êtes rendu à 75 ans, savez. Alors, une seule espérance, hein? Et quelle est l'espérance? Paul dit, quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel dans Éphésiens 18? Pour garder cette unité-là. Si je vous demandais quelle est l'espérance de l'Église d'Augsbury? Ça serait quoi votre réponse? C'est quoi votre espérance, les gars, les filles?
De voir arriver notre pasteur ici.
Oui, c'est vrai, mais c'est pas ça. C'est pas méchant comme idée. Votre espérance, Matthieu. Ah, dis-le fort. Matthieu, dis-le fort.
Que le Seigneur revienne.
Que Christ revienne. Moi, j'aimerais ça, pendant le message, qu'on s'en aille tous. C'est notre espérance, mes amis. Est-ce qu'on vit avec cette espérance? Hein? Une seule espérance, pas deux, pas trois, que le pasteur revienne. C'est notre espérance, pas bonne. Je dis pas qu'elle est pas bonne, c'est pas la bonne. Une seule espérance. Si on vit tout ça, je vous garantis que vous allez être... Il n'y a personne qui va être capable de vous séparer. Pas une chicane. Rien. Sans l'ombre d'un doute, c'est ça que Pierre nous dit. 1 Pierre 1, le retour de Jésus-Christ. Et ça devrait nous unir davantage. Juste à penser qu'il peut revenir après-midi, puis revenir demain matin. Ben, vous savez, notre problème à nous, on n'a pas été persécutés. Est-ce qu'il y en a d'autres qui avaient été vraiment persécutés? On vous dit que si on était persécutés, on se traînait en gang, laisse-moi vous dire ça. Puis tu construirais 5 étages par-dessus ta maison pour être capable d'avoir les frères qui sont avec toi. On se tiendrait. Regardez les immigrants, ce qu'ils font, c'est ça. Ils se tiennent. Hein? Des ghettos à Montréal, ghetto italien, ghetto chinois. Ils sont tous là, tout ensemble. Ils se tiennent. Notre espérance, c'est... La seule espérance, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que le Seigneur ferait s'il revenait pendant qu'on était en train de s'argumenter? Pour ne pas dire se chicaner. Pensez-vous qu'il arrêterait de venir nous chercher? On arrête de la cave pas mal, hein? Trouvez pas? Hey, on est en train de se chicaner. Tu te chicanes avec ta femme, mon frère. Wow, ça y est, revient. Une seule espérance, hein? Une seule espérance. C'est ce que Paul dit dans 1 Timothée 1:1. Notre seule espérance. Si nous espérons, regardez bien. Si vous et moi, on espère bientôt passer du temps dans l'éternité, vous ne pensez pas qu'il devrait, en tout cas, qu'on devrait commencer ici? Hey, un ensemble? On a. Hein? Allez poser la question à des gens où ils passent le temps à chicaner. Ils vont tous vous dire: ah, j'ai assez hâte d'être au ciel avec les autres. Ben oui, mais tu chicanes avec eux autres. Hey, commence par. Pas de chicaner avec eux autres. Commence par dire: on a une seule espérance, on a hâte qu'ils reviennent. Puis ça, là, vraiment, cette espérance-là, on ne chicanera pas. Mais on a tout le temps d'aller au ciel, mais on ne veut pas pardonner à l'autre. J'ai été pasteur pendant plusieurs années à Saint-Georges-de-Beauce, une grosse église à Saint-Georges. Puis, il y avait deux frères dans l'église. Ils n'étaient pas capables de se sentir. Ils salissaient, les deux chrétiens. Il y en a un qui me dit à un moment donné: « Monsieur Lemoine, quand je vais le rencontrer sur la rue, je passe dessus avec mon char, puis je recule pour être sûr que je ne l'ai pas manqué. » Wow, il est sauvé! Essayez de comprendre ça. Une soeur, moi, là. Puis, t'as-tu hâte d'être au ciel, mon frère? Il s'appelait Denis. Hein? Pas Denis Arcand. T'as-tu hâte d'être au ciel, mon Denis? Ben oui, j'ai hâte d'être au ciel. Wow! T'as hâte d'être au ciel, tu veux passer dessus, tu veux reculer pour être sûr que tu ne manques pas, t'as hâte d'être au ciel. Essayez de comprendre. Moi, ça me dépasse. Hein? Mais mes amis, une seule espérance. Également, un seul Seigneur. Je me souviens que ça ne marche plus, mon affaire. Bon, voilà. Un seul Seigneur, la quatrième vérité. Hein? Quatrième vérité. C'est-à-dire, qui? Lorsqu'on parle de Seigneur, on parle de qui, là? On parle de Jésus-Christ. Mais c'est quoi un Seigneur pour vous dans votre compréhension? C'est quoi un Seigneur? C'est un maître. Hein? C'est lui qui va dire, tu fais ça, tu n'as rien à dire. Est-ce qu'on est d'accord à admettre que nous, ce que Paul est en train de nous dire dans ces versets-là d'Éphésiens, c'est on a un seul maître. Et c'est pas un homme ordinaire, là. Hein, non. C'est pas un mystique. C'est pas un hippie, là, le Seigneur. Hein? C'est pas quelqu'un qui a fondé une religion. C'est pas un imitateur de travailleurs sociaux. C'est pas ça. Parce que pour toi et moi, c'est celui qui s'est incarné. Il est venu au monde dans une mangeoire, en sachant qu'il allait finir sur le trône le plus ignoble qui existe, une croix. Ça, c'est notre Seigneur. Il a fait ça pour toi et moi. Il a fait ça. Et même plus que ça, il a vaincu la mort et il est ressuscité. Il est assis à la droite de son père et c'est mon avocat qui ne me coûte pas une scène. Chaise avocat, hein? Vous savez? Non, c'est lui. Jésus-Christ, c'est le seul que je peux et dois adorer. Et mes amis, laissez-moi vous dire ceci, il ne peut pas y avoir d'unité spirituelle en dehors de ce Christ. Il ne peut pas y en avoir. De ce Christ qui est ressuscité et qui est vivant pour moi, non! Moi et toi! Moi et vous! C'est ça que... Hein? Vivant pour toi et moi! Un seul Seigneur. Si vous avez une autre main dans votre vie, un problème. Un seul. La cinquième vérité, une seule fois. Si vous allez voir dans Ésaïe 43, 11 et Ésaïe 45, 21, vous allez y lire ceci. Il fait un résumé. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors de moi, il n'y a point sauveur. Une seule fois, en lui, il n'y en a pas d'autre. Et l'Éternel dit dans Ésaïe, je suis le seul juste qui sauve. Une fois, c'est moi. La seule et unique foi que vous pouvez avoir, c'est moi. Et Paul dit dans Actes 4, 12, « Il n'y a de salut en aucun autre que Jésus, car il y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes pour lequel nous devrions être sauvés. » Une seule foi, un seul Seigneur. La seule foi qui va toujours être la bonne, c'est la foi en Jésus-Christ. Une seule foi. La seule foi à salut qui existe. Parce que Jacques nous dit que les démons croient. Jacques nous dit que les démons ont la foi. Mais est-ce qu'ils ont la foi à salut? Non. Une seule foi, c'est la foi à salut. Vous pouvez croire, à M. Trudeau. C'est une foi. Vous avez la foi à M. Trudeau, c'est notre premier ministre, à ce qui paraît. Mais est-ce que c'est la foi qui sauve d'avoir la foi à M. Trudeau? Ou vous autres, c'est le très honorable Ford, c'est ça? Alors, on sait que c'est votre premier ministre. Est-ce que c'est une foi qui sauve? Il y a une seule foi. Une seule foi, c'est en Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Hein? Voyez-vous, Jacques nous dit ceci, et là, j'anticipe un peu. Si on a la véritable foi, les œuvres vont être conséquentes à cette foi. Et Jacques nous dit, si tu n'as pas d'œuvre dans ta vie, tu n'as pas la foi.
ta foi inutile, t'es perdu. C'est ça que Jean dit, c'est pas d'autre chose que ça. Or, je sais qu'on trouve ça dur, on n'est pas d'accord avec ça, mais c'est ça que la parole de Dieu dit. Ta foi devrait produire les œuvres. Par contre, les œuvres seules ne peuvent pas te sauver. Donc, c'est ce que Jean nous dit. Une seule foi, et cette foi-là devrait produire des œuvres. Et Paul dit dans 2 Corinthiens 13, 5, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi qui saute. » N'ayons pas peur de s'examiner. Des fois, on a peur, hein? On dit, ben non, moi, j'ai mon ticket pour le ciel. Wow, je suis assis là. C'est tout. Je suis sûr d'aller au ciel. Pas convaincu, moi. Faut pas avoir peur de s'examiner. Hein? C'est ce que Paul nous dit. Également, une sixième vérité, un seul baptême pour être uni, là. Un seul baptême. Il y a toujours le mot « seul » qui revient à chaque fois. Le baptême du Saint-Esprit. Tournez avec moi dans 1 Corinthiens 12, 13. Alors, je ne vous ai pas fait tourner beaucoup ce matin. 1 Corinthiens 12, 13. Où l'apôtre Paul nous dit ceci. « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit » pour former quoi? Un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit, le baptême du Saint-Esprit. Alors, ça ne peut pas être plus clair que ça, hein, lorsque Paul parle d'unité dans l'Église. Hein, on a tous été baptisés dans un seul esprit, le baptême du Saint-Esprit. Et également, allez voir dans juste un peu plus loin, dans Galates. Galates 3, 27-28. Galates 3, 27-28, où l'apôtre Paul nous dit ceci dans Galates 3, 27-28. « Vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. » Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes plusieurs en Jésus-Christ. Un en Jésus-Christ. Vous imaginez comment être un, hein? Parce qu'on a un seul baptême, et c'est le baptême du Saint-Esprit. Vous savez comme moi que ce n'est pas le baptême d'eau qui sauve. C'est le baptême du Saint-Esprit que ça. Ça, vous savez ça comme moi, n'est-ce pas? Tu as été immergé en Jésus-Christ lors de ta nouvelle naissance. Tu as été baptisé en Jésus-Christ par le Saint-Esprit à ta nouvelle naissance. Donc, on a un seul baptême. Voyez-vous, mes amis, l'unité n'est pas notre œuvre et elle existe seulement entre les baptisés de l'Esprit. C'est fort, hein, comme réflexion. Pensons-y, hein. L'unité n'est pas notre œuvre et elle existe seulement qu'entre baptisés de Saint-Esprit. Alors, si tu n'es pas né de nouveau ce matin, sois pas surpris si tu te chicanes avec les autres. Pose-toi la question. Parce que cette véritable œuvre existe seulement qu'entre les baptisés du Saint-Esprit. Et finalement, une septième vérité, un seul Dieu est Père. Et il y a une chose qui est évidente, c'est que tous ceux qui ont Dieu pour Père sont de la même famille. Alors, si toi et moi, on a Dieu comme Papa Céleste, on est tous dans la même famille. Et même si vous ne m'avez pas la paix, vous ne pourrez pas vous cacher de moi, on va être aussi ensemble. Donc, si on a le même Dieu, si on a le Dieu qui sauve, si on a la même foi, ça veut dire que toi et moi, On est frères. On est la même famille. Êtes-vous content de m'en voir comme frère? Oui, hein? Mais voyez-vous, lorsque l'apôtre Paul utilise l'expression « le père de tous », est-ce qu'il est en train de dire que c'est tous les hommes qui sont des enfants de Dieu? Non, hein? Absolument pas. Il faut faire attention à ça parce qu'on tombe dans le piège, hein? Voyez-vous, Paul nous démontre au chapitre 2, les versets 1 et les versets 12, dans cette même épître-là de Paul aux Éphésiens, que les pécheurs non régénérés sont morts spirituellement, sans Christ, sans Dieu, et ils s'en vont directement en enfer. Je sais qu'on n'aime pas ça en train de prononcer ce mot-là. Mais savez-vous, les deux thèmes ou les deux mots que Jésus a parlé plus dans son ministère? L'enfer. Et l'autre, savez-vous?
Le ciel.
Pardon?
Le ciel.
Non. L'argent. Les deux thèmes qu'il a parlé le plus dans ses trois années de ministère à Jésus, l'enfer et l'argent. Pourtant, s'il y a bien une chose qu'on ne veut pas parler dans nos églises aujourd'hui, c'est l'enfer. Puis s'il y a bien une chose qu'on ne veut pas parler, c'est l'argent. C'est important, ce sont les deux thèmes que Jésus, vous irez voir, vous irez feuilleter les quatre évangiles, vous allez vous en rendre compte. Donc, Dieu est au-dessus de tous, il domine toutes nos divergences, il est parmi tous et il forme lui-même le lien entre nous. Il est en tous, il est en nous et il met en nous la même vie et le même amour. Alors, si en moi, j'ai le même amour que vous avez, et si vous autres, vous avez le même amour que j'ai, pourquoi est-ce qu'on n'est pas heureux, des fois? Vous savez, j'ai célébré 95 mariages, moi, dans mon ministère. Et il y en a quelques-uns qui sont divorcés aujourd'hui. Et à chaque fois que je les ai rencontrés, savez-vous ce qu'il me donnait comme réponse? Je ne l'aime plus. Waouh! Mais ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, là, si ce matin vous m'aimez, vous ne pourrez pas dire dans un an, moi, je n'aime plus Josée. Sans ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Un seul amour. Un seul amour, les amis. Un seul Dieu et Père qui nous a aimés. Voyez-vous, il y a juste vous et moi qui avons le droit et qui avons le privilège d'appeler Dieu Papa, avec un grand P. Papa, tout un privilège qu'on a. Hein? Mes amis, mes frères et sœurs, c'est la base de l'unité dans une assemblée. Le mot « seul », avec les sept seuls qu'on vient de voir, les sept vérités qu'on vient de voir. Et ces sept éléments, avec le mot « seul », dans chaque élément, mes frères, mes sœurs, sont essentiels, je dirais absolument essentiels, pour être capable de garder l'unité, puis dire « wow, on est un », même si on n'aime pas le visage de l'autre. Et j'espère que vous êtes capable de quitter ici ce matin en disant « Je suis indispensable. » C'est pas orgueilleux de dire ça. C'est pas prétendant de dire ça. Mais on peut dire oh, « prétentieux, il dit qu'il est indispensable. » C'est vrai qu'il est indispensable. C'est vrai, mon frère, ma soeur, on a besoin de toi. Le corps de Christ a besoin de toi. Seul, seul. On a vu sept seuls, hein, ce matin. T'es indispensable. Et pour une fois, vante-toi de ça. Mais mets-les en pratique. Il faut que ça se voie. dis pas que tu es indispensable, tu ne fais rien. Absolument pas. Chacun est indispensable. Et mieux que ça, personne ne peut se passer de toi. Es-tu d'accord, ma sœur? Tu ne peux pas te passer de ton mari.
C'est quoi son prénom? C'est fatiguant, ma sœur, Stéphanie.
Stéphanie, OK. Hein? Stéphanie peut dire, je suis indispensable à mon mari. Eh oui, il est sauvé. Hein? Elle ne se vante pas, elle est correcte. Et chacun peut dire ça. Et on peut, chacun peut dire ça de l'autre qui est en arrière. Hein? Vantez-vous de ça, les amis, de la bonne façon. Vantez-vous de ça. On ne peut pas se passer de toi. Et qu'un seul d'entre nous fasse défaut, savez-vous ce qui va arriver? L'harmonie va devenir impossible. L'harmonie va devenir impossible. Tout ce que Dieu dit est important. Et je sais qu'entre nous autres, je sais qu'il y a des opinions, il y a des interprétations personnelles, hein? Ces interprétations personnelles-là ne touchent pas nécessairement le salut, mais ils sont là. Juste apprendre les doctrines essentielles de la Bible. Hein? On a différentes façons de voir ça. Mais, voyez-vous, on a tous le même salut. Parce que, voyez-vous, même s'il y a des différentes opinions. Hein? J'enseigne les doctrines, c'est mon point fort. J'aime enseigner les doctrines au séminaire. Mais ça ne veut pas dire que j'ai raison. Moi, je suis imprimé, je ne me cache pas de ça. Mais je n'ai pas de raison avec des frères qui sont bien. Il y en a des chez nous qui sont bien. C'est correct. Et ça ne m'empêchera pas de ne pas être uni. Voyez-vous? Parce que ça change quoi, mon salut? D'être premier ou armé, l'exemple que je donne. Ça ne change pas, vous savez. Même ceux qui sont mille, ils vont être enlevés pareil. Il n'y aura pas de l'air. Ils vont être enlevés pareil. Mais, en tout cas, voyez-vous, mes frères et mes sœurs, il faut comprendre le principe de l'unité dans l'amour les uns pour les autres. C'est ça que Paul et nous enseigne. Et ensuite, on va être capable d'interpréter, d'aborder, c'est-à-dire n'importe quel sujet, on n'aura pas de problème. Ayons trois choses. Et je termine avec ça. Dans les choses essentielles, ayons l'unité. Dans les choses secondaires, ayons la liberté. Mais en toutes choses, ayons l'amour. Et si l'amour est là, je vous garantis que l'unité dans l'Église, l'unité dans votre couple, l'unité entre nous, elle va être là. Et est-ce que tu as ces trois éléments dans ta vie? Hein? L'unité, la liberté, l'amour. Si vous avez ça, je vous garantis que l'Église va avancer. L'Église va être unie. On ne pourra pas dire comment ça se fait qu'il y a une division là. Ça ne devrait pas. J'ai beaucoup de difficultés à comprendre les divisions dans nos églises. Beaucoup. Parce qu'on comprenait vraiment ce mot « ecclésia », ce mot « unité »,« seul »,« boy ». On aurait des églises fantastiques. Et Papa éternel, je te loue encore une fois ce matin, je te loue de ce que le mot « seul » qu'on vient de voir à 7 reprises, combien je veux te louer de ce que ce mot nous unit ensemble. Tu es le seul Dieu, le seul Sauveur. Tu nous as donné la seule foi à salut. Et un jour, on va être avec toi, ensemble, et on va former le seul corps céleste pour louer, adorer, servir notre Dieu. Et Papa éternel, combien j'ai hâte de voir Jésus. Il est déjà au ciel avec son corps céleste, ses mains percées, ses pieds percés, son côté percé. Il est avec un corps céleste. Et un jour, c'est ce que nous dit en Thessaloniciens, on va ressusciter, on va avoir un corps nouveau et on va être avec Jésus. Alors, garde l'unité. Garde toutes les seules qu'on a vues ce matin, qu'on puisse mettre ça dans nos vies. Et Papa éternel, c'est comme ça que tu vas être honoré, loué et glorifié. Dans ton beau, magnifique et précieux nom, je vais t'en prier, Papa. Amen. Amen.
Ça va, ça va.